19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, chers amis auditeurs. Merci de nous suivre. Quel plaisir de vous retrouver. On est mardi, et oui, on est... Et du soleil ici, venez nous écouter, du beau soleil. C'est ici que ça se passe, le soleil il est là. Il fait froid dehors, mais ici on vous réchauffe. On réchauffe les esprits, on réchauffe les cœurs, on réchauffe tout court. C'est pas beau ça? Allez, un petit coup de clochette. Voilà. Allez, au sommaire de cette émission, vous savez quoi? Pas mal de choses. Justement, je vais ouvrir l'antenne parce que vous étiez beaucoup à me solliciter hier, énormément. Au standard, Solal vous accueille, même Nabil. Hein. Aujourd'hui, attention, hein, ça va nous coûter cher. Hein. Ils sont deux. Je comprenais mieux maintenant où passer le budget. Ouais. Je me suis dit, ouais, y a un problème de trésorerie. On ouvre l'antenne au 01 53 48 3000. On va parler de, vous savez quoi, d'Israël avec Rafah, notamment avec ce qui se passe en ce moment, et beaucoup sont inquiets. Vous aviez fait part hier, vous savez quoi, de votre inquiétude, vous avez fait part notamment de votre désarroi, vous avez fait part de tout simplement de cette énorme crainte. Et bien on va en parler aujourd'hui parce que, vous savez quoi, et bien les Palestiniens racontent une nuit d'enfer sous les bombardements. Alors je voudrais qu'on en parle parce que effectivement, partageons nos points de vue tous ensemble, partageons aussi vos témoignages. Hein. 01 53 48 3000, un seul numéro, il n'a pas changé. Hein. Je voudrais vraiment que le standard explose dans tous les sens. Je voudrais vous écouter, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, mais surtout je vous attends au standard. Ensuite, après, les débatteurs influenceurs, eh bien, ils viendront confronter leur point de vue sur Rafah, on viendra, et notamment sur la Chine qui appelle Israël à arrêter son opération. On viendra sur la fin du droit du sol. Ça, c'est un sujet, évidemment, vous savez quoi, qui pose question. Certains s'opposent même, d'ailleurs, à ce qu'on n'est pas en train de préparer le terrain au Rassemblement National. Darmanin, qui appelle... Aïe, aïe, aïe. Monsieur Darmanin, pardonnez-moi. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il appelle les beaux esprits parisiens à sortir du périphérique. Ben, pour une fois, non, mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. Pour une fois, on va dire que faut sortir du giron parisien. Non, mais c'est vrai. Après, attention, le sujet, c'est comment on l'aborde. Vous savez, c'est une histoire d'angle. Vous êtes journaliste, hein, vous. C'est toute une histoire d'angle. Comment on place l'angle, n'est-ce pas, Ibouba? On reviendra aussi notamment sur le harcèlement scolaire, parce que Nicole Belloubet, eh bien, elle endosse la lutte contre tout cela, le harcèlement scolaire. C'est une de ses préoccupations. Elle a raison. Parce que là aussi, vous savez quoi, vous étiez nombreux, je me souviens de tout, hein, vous, auditeurs, vous étiez très très nombreux à nous appeler pour nous dire notamment que vos enfants étaient victimes de harcèlement scolaire. Je vous avoue que j'étais tombé KO lorsque j'ai assisté à, pas un, deux, trois, à une dizaine d'appels du 93, hein, attachez-vous bien, du 93 qui venaient nous dire mon fils ou ma fille est victime de harcèlement scolaire. J'avoue que j'étais agréablement surpris. Mais bon, après, plus rien ne m'étonne. Ah, le quoi de neuf, c'est Louis, la parole de Louis Bachou. Le grand Louis, 88 ans, vous vous rendez compte, qui viendra nous livrer son point de vue sur l'actualité. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview aujourd'hui, vous savez quoi, on devait en parler, c'est quelque chose, c'est un événement sur lequel je devais revenir, c'était un gala autour de la Palestine, ça s'est passé samedi dernier, et j'avoue que je suis ravi de revenir sur ce sujet, parce que justement l'un des organisateurs, ou peut-être l'organisateur est avec nous justement.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Sama, vous allez bien?
Ça va, alhamdoulilah, et vous allez bien?
On peut considérer que vous êtes l'organisatrice de ce gala justement.
Tout à fait.
Alors, Sama, justement, vous avez organisé ce gala qui s'est déroulé sur la ville de Nanterre. D'abord, première oui. question, c'est un gala qui était en destination de qui? Et je sais que c'était, évidemment, ce gala, c'était un appel à la solidarité avec ce qui se déroule en Palestine précisément.
Oui, tout à fait. Alors, c'était un gala caritatif au profit des bénéficiaires palestiniens, donc des réfugiés en Cisjordanie et à Rafah.
Ce gala, comment il s'est déroulé? Quel est justement le bilan que vous en tirez de ce gala caritatif en direction des Palestiniens, ma chère Sama?
Alors, on a été très surpris parce qu'il y avait énormément de monde. Des personnes venaient même avec leurs tabourets, leurs chaises et souhaitaient absolument rester. Il y en avait qui sont restés même debout parce qu'il y avait énormément d'intervenants, de Palestiniens. La nourriture a été faite par des réfugiés gazaouis qui sont arrivés en France il y a quelques mois. et que nous suivons. Donc, ça a créé une ambiance chaleureuse. Tout le monde était là, tout le monde souhaitait aider, tout le monde. Voilà, c'était incroyable. Il y avait des invités, des députés qu'on n'avait même pas invités, en fait, qui sont venus, qui ont répondu à cet élan solidarité.
Ouais. Depuis tout à l'heure, je vous appelle Sama, alors pardonnez-moi, je vous avais même pas relevé d'ailleurs. C'est chez Shams Noujoum plutôt, hein, c'est pas. Ben oui, pourquoi vous avez pas relevé? Faut pas hésiter. Ben oui. Parce qu'il y a une autre Sama justement qui a organisé un peu comme vous une soirée solidarité en direction des Palestiniens et qui s'appelle Sama, et c'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux. Mais il fallait me le dire, faut pas hésiter, ma chère Shams Noujoum. Alors justement, avec ce premier bilan, est-ce que vous pouvez considérer, franchement je vous pose la question parce que vous savez, beaucoup sont préoccupés, est-ce que vous considérez, Shams Noujoum, justement, que... Alors, autant il y avait une prise de conscience il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une véritable prise de conscience au sein de l'opinion française? Au sein, tout simplement, au sein de nos auditeurs? Est-ce que vous pensez que le sujet les concerne?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ce qui me fait dire ça, c'est les participants de ce gala. Lors du passage des familles, lors de l'explication des situations, des projets et des intervenants, n'ont pas hésité à lâcher des larmes, n'ont pas hésité à exprimer leur solidarité, n'ont pas hésité à proposer leurs aides pour nous aider dans l'accomplissement de ces projets-là, n'ont pas hésité à donner. Faut comprendre que c'est un gala caritatif avec toutes les denrées alimentaires qui ont été données par des restaurateurs, par des commerçants gratuitement. Et honnêtement, c'était une solidarité inédite et sans précédent. Aujourd'hui, les gens de la communauté, et puis même en France plus généralement, sont très alertés par ce qui se passe là-bas. Et ce qui est intéressant et très beau, c'est qu'ils ne se désolidarisent pas de la cause. Et ça continue, et bien au contraire, en fait, avec le temps, ça va renforcer et leur envie d'aider et leur envie de soutenir. Et ça,
Shams Noujoum, donc on peut parler d'un succès dans le cadre de cette solidarité, de cette soirée, de ce gala caritatif qui s'est déroulé samedi dernier sur la ville de Nanterre. Est-ce que vous allez reconduire cette solidarité? Est-ce que vous allez la renforcer? Est-ce que vous allez la renouveler dans les prochaines semaines? Quand on voit notamment ce qui se déroule en ce moment même au sein de Rafah.
Alors, on est très attristés déjà pour ce qui se passe. On est endeuillés, je dirais même. Nous, en tant qu'humanitaires, on est simplement un pont entre les bénéficiaires et les donateurs. Donc oui, s'il faut se plier en quatre pour retrouver des circuits et retrouver des manières de transférer des donations et du matériel, nous le ferons. Et bien sûr, dans quelques semaines, voire quelques mois, nous pensons effectivement réitérer cette initiative-là avec d'autres projets et Inch'Allah pour aider au maximum nos frères sur place.
Shams Noujoum, il ne faut pas hésiter à venir en parler ici même. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui vous écoutent ce soir, partout en France notamment? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Là, vous venez d'annoncer qu'il y aura d'autres, que vous allez renouveler l'expérience de ce gala. Vous allez la renouveler avec d'autres formes, certainement. Là, prochainement, vous nous tiendrez au courant pour en parler. Mais surtout, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, vous savez quoi, un peu partout en France d'ailleurs?
Ce qui est important, c'est d'être unis et solidaires. D'où le nom de l'association Solidarité et Unité. Sur place, ils nous attendent, ils ont besoin de nous, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Ils ont besoin qu'on continue de nous battre, qu'on continue de boycotter, qu'on continue de manifester, mais également de donner et de participer à des projets humanitaires. Aujourd'hui, je lance un appel parce que ce n'est pas facile d'aider la Palestine en tant qu'humanitaire et en tant qu'association. On est sur la sellette à tout moment. Mais on continue de le faire et on a besoin de soutien. On a besoin que vous nous souteniez pour nos frères sur place.
Avec Solide Uni, hein.
Avec Solide Uni, oui. Et puis même avec des associations qui essaient également de soutenir. Ce qui est important, c'est juste de rester unis et de ne pas oublier. On a oublié depuis tant d'années le conflit palestinien. Et aujourd'hui, on regarde de loin en pleurant par rapport aux événements qui se déroulent. Il ne faut pas qu'on réitère nos erreurs passées. Le conflit palestinien, c'est le premier plan.
Oui, on peut craindre désormais, ou alors c'est déjà, n'est-ce pas déjà le cas, hein, craindre le désastre humanitaire?
On craint le pire. On craint le pire, mais on a espoir parce que c'est une population qui résiste, une population très forte. Mais lorsqu'on voit les agressions à Rafah après la décision de la Cour de justice internationale, aujourd'hui on se dit que c'est très compliqué. Très compliqué.
À nos auditeurs que l'intégralité des fonds sont reversés en Palestine via des projets, et plusieurs projets d'ailleurs, notamment. Merci Shams Nojoum. Vous reviendrez évidemment en parler, et lorsque vous serez fixé sur le prochain gala, vous nous tiendrez au courant.
D'accord, je vous remercie.
Mais avec plaisir, c'est parti le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Et le 01-53-48-3000, chers amis auditeurs, je vous attends partout en France. Venez justement livrer votre point de vue. Vous venez d'entendre le Shams Nojoum qui alerte et qui attire son attention, évidemment, sur le pire est à venir, ou le pire peut arriver, effectivement, lorsque je lui pose la question concernant est-ce qu'elle craint ce désastre humanitaire. Sa réponse, évidemment, nous laisse, évidemment, sans nom. Alors, autour de ce plateau, Richie Thibault, bonjour.
Bonsoir Aziz, c'est un vrai plaisir d'être ici, d'autant que j'ai appris que nous étions aujourd'hui la journée internationale de la radio.
Exactement, c'est vrai, absolument. Alors Solal vous attend au 01-53-48-3000 parce que je voudrais vous entendre, je veux qu'on échange avec vous chers amis auditeurs. C'est très important sur la situation qui se déroule en ce moment même à Rafah, sur ce conflit israélo-palestinien. Je veux qu'on échange nos points de vue. 01-53-48-3000, normalement le standard doit exploser parce qu'on doit en parler. Richie Thibault, il est le porte-parole de PEPS.
Pour une écologie populaire et sociale.
Notre ami Merwan, qu'est-ce qu'il y a Merwan?
Bonsoir Adil.
Pourquoi tu as fait ça, Miou?
J'ai fait ça pour savoir si
pourquoi
j'allais avoir droit à mon nom. Je voulais savoir si j'allais avoir droit à mon nom.
Il croit qu'il est en mission.
Force pour Gaza. Maintenant, force pour Gaza et pour les civils et également pour les Israéliens, parce qu'il y a des Israéliens aussi qui luttent pour les Palestiniens. Il faut le savoir.
C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Ibouba, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Adil Farkan.
Quelle élégance, toujours lui, hein, toujours il vient avec le.
Merci, c'est vraiment gentil.
Il est dans le style.
N'oublie
hein.
pas que je l'ai appris de toi quand même. Mon
tu
ami,
rigoles ou
mon
quoi
ami, mon frère.
La Chine qui appelle Israël à arrêter son opération. Les États-Unis qui appellent Israël à arrêter son opération. L'Europe, la France qui appelle à arrêter, de stopper, évidemment, et tout le monde appelle en ce moment même à cesser le feu. Et qui sanctionne. Richie
oui,
Thibault.
Alors moi, je ne veux pas dire que le pire est à craindre, parce qu'en réalité, on est déjà dans le pire. Des dizaines de milliers de personnes qui sont assassinées massivement. Il y a une destruction ethnique en cours, un processus de destruction ethnique du peuple palestinien.
C'est loin,
déjà,
ouais,
pour moi,
non.
C'est déjà une catastrophe. Bon. C'est déjà un drame absolu. Et notamment des milliers d'enfants qui meurent sous nos yeux aujourd'hui, devant nos écrans. Et c'est ça la catastrophe. Parce que moi, qui suis étudiant en histoire, on en a connu au 19e siècle, au 20e siècle, et bien avant des catastrophes, des drames comme celui-ci. Mmh. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, tout est filmé. On a les images. Et les nations, aujourd'hui, les États-nations occidentaux, notamment, restent inertes. Alors certes, ils commencent à changer de ligne, parce que justement, leur population civile ne cautionne plus le fait qu'ils cautionnent cela. Mais moi, je trouve qu'au-delà des discours, la France, par exemple, devrait tout de suite lever tous les brevets, les licences du moins, qui permettent d'acheminer des armes vers Israël, parce que acheminer et autoriser des producteurs d'armes français à acheminer des armes vers Israël, c'est contribuer et cautionner aujourd'hui le drame et la catastrophe en cours et le nettoyage ethnique orchestré par l'État d'Israël.
Vous êtes convaincu parce que vous dites, vous pensez que c'est un nettoyage ethnique?
Quand on cible de manière discriminée, de manière massive, de manière industrielle, un peuple, une population, depuis des décennies, depuis 1948 avec la Nakba, c'est un drame et ça fait trop longtemps que ça dure. Tout à l'heure, ça a été rappelé par la militante que tu as pu interviewer. Et aujourd'hui, il est plus que temps de réagir. Et en France, on peut faire beaucoup
c'est
de
humanitaire,
choses.
Hein.
On
ouais.
peut une humanitaire et on peut faire beaucoup de choses. On peut notamment boycotter, comme je le fais, comme on est nombreux à le faire, des entreprises qui contribuent, qui cautionnent et
n'allons
qui alimentent
ce terrain.
Ce drame.
Restons sur le terrain.
On
n'allons pas sur ce
ne
terrain.
Rien, ne rien faire,
non,
c'est laisser faire.
Je veux tout entendre.
Ne rien faire,
n'allons
c'est laisser
pas
faire.
Sur ce terrain. Vous savez, non, j'accueille toutes les opinions. Toutes les opinions sont les bienvenues. Tout le monde, hein, vraiment, y compris ceux qui ne sont pas d'accord et qui viennent et disent non, effectivement, ils considèrent que cette guerre, etc. Hier, j'avais d'autres points de vue ici et c'est parti en clinch d'ailleurs avec certains qui ont considéré que non, c'est légitime ce qui se passe en. Bon, bref, parlons-en.
Non, mais moi, je dis juste une dernière chose. En ce moment, il y a des milliers d'enfants qui sont assassinés. On laisse faire ou on ne laisse pas faire. Voilà l'enjeu.
Là, vous avez raison. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est effectivement les enfants, les femmes, etc.
Déjà la pause.
Oui. Si la pause, bah oui, bah on est. J'ai reçu une interview tout à l'heure.
Trop rapide là.
Mais c'est pas ça. N'oubliez pas l'interview avant. 0153483000. Je vais accueillir Sarah de Paris et puis tous les autres 0153483000 et je vais retrouver évidemment Merwan Mioubi et Ibouba pour écouter leur point de vue. À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h20 précisément. C'est parti, le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de donner la parole, évidemment, je ne vous ai pas oublié. Ibouba et Merwan Mioubi, je ne vous ai pas oublié, évidemment, après avoir entendu Richie Thibault. Tout de suite, je vais accueillir Sarah. Sarah qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Sarah.
Bonsoir, Sarah.
Oui, bonsoir.
J'irai à Valence pour accueillir Inès. Alors, Sarah, on vous écoute.
Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, Richie. Et on est vraiment dans le massacre, dans le
plaisir, on est plein dedans.
Oui. Et en même temps, je comprends pas Biden qui dit d'arrêter. Il faudrait qu'il arrête d'envoyer les armes. C'est ça.
Oui.
Par exemple, l'Irlande, ils ont décidé de ne plus envoyer des pièces détachées à Israël.
Oui.
Donc c'est ça ce qu'il faut faire, il faut faire des gestes vraiment sûrs.
Vous dites ça. Alors attendez, on va aller voir à Valence ce qu'elle en pense justement, Inès. Bonsoir Inès, restez avec moi parce que je veux vous connecter. Bonsoir Inès.
Bonsoir à vous.
Il y a parfois, vous savez, ça m'arrive comme ça de temps en temps, c'est que les auditeurs se conversent entre eux. Moi ça m'arrive, vous savez, de temps en temps comme ça, j'aime bien que les auditeurs parlent entre eux. Alors Inès, il y a Sarah qui vous écoute. Sarah, il y a Inès qui vous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord, Inès, avec ce que vient de dire Sarah ?
On peut être que d'accord.
Oui. Alors, développez, dites-nous.
Alors, le conflit israélo-palestinien, c'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. J'ai 34 ans, j'ai grandi avec ce conflit.
Vous êtes jeune, oui. Non, mais ça me fait plaisir que les jeunes appellent et qu'ils se sentent concernés. C'est bien, ça fait plaisir.
On peut que se sentir concerné. C'est un conflit où il y a beaucoup d'humains. On peut d'humains des deux côtés. Hein. C'est pas seulement parce qu'on peut être d'une certaine confession où on va devoir s'attendrir plus pour les musulmans ou qu'on est juif et qu'on va devoir s'attendrir plus pour les Israéliens. Non, c'est un conflit humain avant tout. C'est un conflit qui devient dramatique où il y a des situations sanitaires, des situations où la famine commence à arriver sur le terrain si c'est pas déjà le cas. Il y a des milliers d'orphelins. Il y a des familles qui sont déchirées, séparées, des personnes emprisonnées. Ça veut dire que ce conflit est en train de détruire toute une population.
Sarah ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'un côté ou de l'autre, c'est des êtres humains. Mais le problème, c'est que ce qu'on voit là, c'est pas une armée contre une armée. Effectivement, c'est une résistance contre une armée, une grande armée qui est parmi les meilleures et les plus grandes armées du monde, qui ont tout ce qu'il faut pour eux. Et en même temps, je trouve que c'est lâche.
Ouais. Sarah, vous parlez de résistance, effectivement. D'autres qualifient ça, évidemment, pas de résistance, mais plutôt de mouvement terroriste.
Mais
il faut discerner deux choses.
Attendez. Oui, je savais que j'allais provoquer ça, mais c'est mon rôle. C'est mon rôle et j'assume.
Taquin Adil.
Merwan Mioubi, qu'est-ce qu'il faut distinguer? Merwan Mioubi, attendez, il va vous répondre, Sarah et Inès.
Il faut distinguer. Ce qui était assimilé à du terrorisme, et c'est le droit des personnes qui ont envie de dire que c'est du terrorisme, il n'y a pas de souci. Et le fait aussi qu'il y ait des populations civiles sur place qui se font bombarder et qui, et pour le coup, il s'agit vraiment d'une attaque sans aucune justification d'un État souverain sur des populations civiles qui sont chez elles, ça il y a aucun doute. J'aimerais dire une chose pour prendre un petit peu de hauteur. Les États qui sont un peu plus sérieux, on va dire entre guillemets, par exemple comme la Chine, vont comprendre et comprennent très simplement que c'est une zone
plus sérieux. Les Américains sont sérieux.
Non, attendez.
On va dire les États plus sérieux, la France, l'Europe sont sérieux.
Je vais terminer, Adil, juste un instant. Je vais arriver au bout. Les États qui font de la réelle politique et non pas ceux qui essayent de sauver quelques intérêts sur le globe. Les États qui font de la réelle politique comme la Chine comprennent que ce sont des zones commerciales importantes et qu'il va falloir faire rebaisser la tension pour que les échanges puissent continuer.
Bon.
Et c'est pour ça que la Chine intervient. Et
là, vous parlez géoéconomique. Là, restons sur la chose géopolitique.
Oui. Non, mais c'est la base. Parce qu'au final, c'est ce qui fait tourner le monde, c'est l'économie. Et aussi pour cela que Joe Biden en a assez de Netanyahou et que Netanyahou devient finalement le réel problème de la zone.
Le roi jordanien, en ce moment, il est
qu'il va falloir, à un moment donné, se poser la question de est-ce que Netanyahou peut rester et est-ce que la situation pourra se régler avec ce monsieur.
Merci Sarah, merci Inès d'être intervenu et d'avoir livré votre point de vue. Merci Inès et Sarah.
Merci à vous.
Ne lâchez rien.
Bien sûr.
On lâchera rien.
Voilà, c'est ça.
Et
au plaisir de vous entendre. Au plaisir de vous entendre, chers amis. 01 53 48 3000. Continuez de nous appeler. Le standard vous attend. C'est plutôt Solal qui vous attend. Il vous accueille avec grand plaisir au 01 53 48 3000. Ou Nabil, l'un des deux. Enfin, je ne sais pas qui c'est, mais bon, en tout cas, ils sont là. Ils sont en force. Pour vous accueillir au 01 53 48 3000, chers amis. 19h25, on n'a pas entendu Ibouba. Ibouba, dites-nous alors, concernant évidemment ce conflit.
Écoutez,
notamment la situation.
Oui, absolument. Donc, je sais très bien que c'est un problème qui est tout à fait lancinant et qui doit être traité avec une certaine acuité, parce qu'aujourd'hui, donc, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe plutôt donc en Palestine, en terre palestinienne, est honteux. Justement, donc, couronné d'injustice, d'humanisme, donc, à l'absence d'humanisme, je dirais bien, parce que les gens aujourd'hui, on voit plutôt que des jeunes, des enfants, des mamans, des pères de famille qui sont en train de laisser leur vie, donc, sous les coups de bombe. Et je crois que là, ça doit interpeller plus d'un. Et aujourd'hui, les classiques internationaux doivent se réveiller. Je me pose la question à savoir, est-ce que réellement, ils ont le sein humain? Qui circulent vraiment dans leurs veines. Parce qu'aujourd'hui, en voyant tous ces matraques, en voyant donc tous ces morts qui sont là, et que personne dans ce monde ne peut interpeller Benjamin Netanyahou d'arrêter donc effectivement cette guerre. De toute façon, il fallait s'attendre à cela depuis au moment où ce monsieur a été élu à la tête donc d'Israël pour une seconde fois. Je sais qu'il y avait des choses qu'il fallait préparer et qu'il fallait exécuter. J'ai rien contre la personne, j'ai rien contre Israël, puisque comme vous le savez très bien, dans cette terre-là, effectivement, cette terre palestinienne, il y a des Israéliens aussi qui vivent. Donc aujourd'hui, le problème, c'est mon message, il est fondamental, il est solennel. Un peu d'humanisme envers ces enfants qui sont en train de laisser leur vie et qui n'ont pas cherché à faire quoi que ce soit.
On a oublié un peu. Réchi Thibault, oui. Merwan Mioubi. Réchi Thibault, et ensuite je vais accueillir Ahmed de Dreux. Ça nous appelle comme ça un peu de partout, c'est bien.
Juste pour dire qu'il y a quelque chose de très important. Lequel? Aujourd'hui, on est tous très concernés. C'est-à-dire que dans nos États occidentaux, y compris la France, nous, Français et Françaises, on peut agir pour soutenir de manière efficace le peuple palestinien. Comment? Eh bien, en mettant la pression, en contraignant nos responsables politiques, le chef de l'État français, en l'occurrence M. Macron et M. Séjourné au Quai d'Orsay, a cessé la livraison d'armes à Israël. Et j'insiste là-dessus, car la France, pays des droits humains, ne peut pas cautionner tel massacre, elle ne peut pas cautionner d'armer ses nations génocidaires.
Il y a quelque chose qu'on relève trop peu, c'est le fait que en dernier lieu, ça va coûter beaucoup aux Israéliens eux-mêmes, et que cette tension-là va faire que la zone sera invivable pour eux, et ça va jouer contre eux. Donc à un moment donné, il va falloir que ça stoppe.
La question soit posée,
et que les Israéliens commencent à se lever contre ce gouvernement qui les a amenés droit dans un conflit qu'ils n'ont pas voulu.
Et un jour, Netanyahou sera condamné pour crime contre l'humanité.
On n'en est pas là, mais effectivement, question se pose de plus en plus. Ahmed de Dreux, bonsoir Ahmed.
Oui, salut les gars, bonsoir à tous.
Bonsoir Ahmed. Fameuse sonnerie qui retentit. Alors Ahmed, bonsoir, on vous écoute, mon cher Ahmed.
Bah écoutez, moi je voulais dire que ce problème de conflit, il ne faut pas se voiler la face. Moi je trouve que ça fait très longtemps que ça dure. Avec tous les discours qu'on a eu au début par les différents médias, non, oui, ils ont le droit, maintenant, ils retournent leur veste, entre guillemets. Est-ce que c'est pas officiellement, ils disent oui, faut arrêter, mais officieusement, est-ce que c'est vraiment le cas? Ils veulent vraiment arrêter? Vous avez vu Gaza? Les trois quarts, ils sont rasés. Déjà, c'est très grave. on arrivait à un moment très grave, un moment de non-retour. Gaza est rasé, et il faut continuer encore à raser. Moi, je trouve que c'est juste de la fumée devant les yeux, ce qu'ils nous racontent maintenant le président américain ou le président français. C'est juste pour, voilà, ils savent qu'ils sont arrivés à un moment au pied du mur, ils n'ont plus le choix. À l'international, tout le monde commence à déjà réagir ou réagissent, alors ils s'alignent seulement. Mais au fond d'eux, est-ce que vraiment il craint quelque chose, Netanyahou? Il craint rien du tout, monsieur.
Il y a quelque chose qui est différent.
Merci de nous avoir livré votre point de vue, Ahmed de Dreux. Merci infiniment. 01 53 48 3000, continuez de nous appeler.
Il y a quelque chose qui est quand même il y a quand même un argument qui est différent cette fois-ci par rapport aux 20 dernières années où il y a eu des intifadas, il y a eu des réponses violentes des Israéliens, exactement, qui a eu une colonisation qui s'est amplifiée en Cisjordanie. C'est que aujourd'hui, on est plus seulement en présence d'un monde 100% occidental avec le grand frère américain qui vient et qui dit dans quelle direction ça doit aller. Aujourd'hui, on est dans un monde où la Chine, la Russie ont pris de plus en plus d'importance.
L'Iran, le Qatar, et se sont émancipés
de l'influence occidentale qui choisissait un petit peu.
Exactement. De la géopolitique du
C'est ce que je te disais la semaine dernière, Adil. J'étais ici, je te disais, si ce ne sont pas les Occidentaux et la France et les Américains qui décident de montrer un petit peu la sortie de ce conflit-là, eh bien, ce seront les Russes, les Chinois, le Qatar qui vont se présenter en grands médiateurs et qui seront au final les grands vainqueurs parce que ce sont eux qui vont instaurer une solution de sortie pour le conflit.
Allez, virgule, on entame le second sujet. La fin du droit du sol, vous en avez entendu parler, chers amis, la suppression du droit du sol à Mayotte, une mesure voulue par l'extrême droite. Eh bien, tiens, monsieur Gérald Darmanin, le ministre de l'Éducation et de l'Intérieur, justement, il s'est emparé. Toujours là pour piquer.
S'appelle Moussa.
Tiens, tu sais, les jeux de fléchettes. Merwan, je le vois bien jouer aux jeux de fléchettes. Tu sais, quand on est dans les trucs de jeux de fléchettes, et je
vois Gérald Moussa Darmanin. C'est son histoire.
On ira jouer à la fléchette, hein, mon cher Marouane.
Je suis très bon, toujours dans le milieu.
Justement, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement dans ce droit du sol à Mayotte? Qui la question se pose dans l'Hexagone, en France. Tout le monde s'est emparé de la question. Sauf que, à juste titre, il dit sortez de votre prisme parisien. Et il n'a peut-être pas tort, monsieur Gérard Darmanin. Parce qu'il se dit.
C'est juste, oui.
Non, mais il se dit effectivement, voyez les choses de façon globale. Alors, Richie Thibault, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et finalement, la question, le droit du sol, c'est toute une histoire aussi. Hein.
Bon, moi, je pense que la première des choses, c'est de dire à Darmanin que lui, il n'a pas de leçon à donner et qu'il devrait cesser déjà, dans un premier temps, de courir après les ordures et les idées derrière. Ça, c'est la première chose. Ah. Ensuite, moi, je dis une chose très claire.
Vous avez joué aux fléchettes, non,
pourquoi pas? Mais il faut avoir de bonnes cibles, et lui, c'en est une, en l'occurrence, qu'on doit avoir. Bon, alors, non, mais il y a un truc vachement important. C'est que la France, ce n'est pas un pays ethnique. Ce n'est pas le droit du sang qui prime avant tout la France. C'est. Être français, c'est adhérer.
C'est le droit du sol.
Mais justement, la France.
Non, mais rappelle l'histoire, c'est un historien. C'est un historien.
La France, c'est adhérer à des.
Moi, je veux le laisser aller jusqu'au bout, allez-y.
Non, mais c'est que la France telle qu'on la connaît, elle est véritablement née en 1789, la République française, et les notions de droit en termes d'acquisition de la nationalité sont nées au moment de la Révolution française en 1789. Les principes tels que le droit du sang, le droit du sol sont nés en ce moment-là. Et le droit du sol, c'est quoi? C'est dire que lorsque l'on épouse la France, lorsque l'on épouse l'idéal républicain, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, eh bien, on est tout autant français que celles et ceux qui avaient des parents et des grands-parents français.
Un pays, c'est des
frontières. C'est ça l'histoire de la France. Et aujourd'hui, remettre en question ces principes-là, et notamment les remettre en question sur le territoire circoncis de Mayotte, c'est dire qu'en quelque sorte, les citoyens de Mayotte sont des citoyens de seconde zone, dans la mesure où le droit n'est pas le même. C'est un droit d'exception qui s'applique à Mayotte
pause,
et en Hexagone.
Et on se retrouve tout de suite après. Pause, parce que je ne veux pas me mettre en retard. Pause. 01 53 48 3000, et à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h38 précisément, les informés avec Ibouba, avec Richie Thibault, avec Merwan Mioubi. Justement, je voudrais vous entendre, Merwan Mioubi, concernant le sujet.
Oui.
Sur la fin du droit du sol.
Parlons-en. Mais il s'agit bien de Mayotte et pas de la métropole. Et Mayotte, il faut comprendre aussi que c'est une géographie et qu'il y a aussi il y a eu un phénomène où beaucoup de Beaucoup de personnes sont venues sur cette île parce qu'il y avait une proximité avec les Comores, pardon.
Ouais.
Et donc derrière, il y a eu une immigration qui était incontrôlée. Donc à un moment donné,
ce qu'il dit Darmanin, il dit c'est effectivement la population locale qui demande à l'État la fin du droit du sol.
Exactement.
Et de la lutte contre l'immigration irrégulière.
Exactement.
A-t-il affirmé en appelant les beaux esprits parisiens à sortir du périphérique et à aller à Mayotte.
Bien sûr, et à comprendre une chose, c'est que la gestion d'un pays, c'est aussi la gestion de ses frontières, c'est la gestion de sa géographie, et qu'à un moment donné, Mayotte ne peut pas être considérée comme la métropole, et qu'il faut prendre les choses avec leur contexte, avec leur spécificité, et que si la population locale demande à réguler les entrées sur l'île, c'est bien qu'il y a un problème. Et il y a un problème directement avec la proximité des Comores,
Rititibo.
Et le fait qu'à un moment donné, on peut plus, c'est plus gérable. Et que derrière, il y a des familles, il y a des populations, des structures de santé, d'écoles qui n'arrivent plus à tenir. Et je ne vous parle même pas de la sécurité.
Moi j'ai un certain nombre d'amis maoris et maoraises qui me disent quoi ? Qui me disent que Mayotte n'a pas besoin de moins de république, Mayotte a besoin de plus de république. Donc ce n'est pas en retirant des principes républicains à Mayotte qu'on va régler la solution. La solution, c'est laquelle ? C'est de faire en sorte que l'effort soit réparti sur l'ensemble du territoire et que, par exemple, les mineurs isolés étrangers qui sont dans un certain nombre où il n'y a pas d'infrastructure...
Vous répondez quoi, M. Darmanin ?
Il vous dit
la population locale demande à l'État la fin du droit du sol et de la fermeté contre l'immigration irrégulière. C'est pour ça qu'il dit aux beaux esprits parisiens, sortez un peu, allez voir.
J'ai des amis, je parle avec eux qui sont maoris et maoraises, ils me disent quoi, par exemple ? Eh bien que l'État, l'Hexagone, prenne part au poids et à l'investissement nécessaire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, accueillir sur le territoire hexagonal les mineurs isolés étrangers qui sont extrêmement nombreux à Mayotte, effectivement, et il n'y a pas suffisamment d'infrastructures permettant de les accueillir.
Vous comprenez
donc
aussi que c'est une histoire sans fin.
C'est-à-dire
que vous allez toujours avoir des arrivées.
Il y a des enfants qui se retrouvent sans parents.
Vous allez toujours avoir des arrivées. C'est mauvais pour les Comores, c'est mauvais pour les Maorés. Je veux dire, à un moment donné, si vous ne prenez pas en compte les deux parties de la chaîne, vous n'allez jamais résoudre le problème parce que vous allez avoir toujours des populations civiles qui vont venir avec des enfants en bas âge, qui vont s'installer, qui vont continuer à faire grossir. Et en fait, on va creuser le trou. Comme les générations de politiques qui faisaient du discours, vous allez creuser le trou de leur tombe. C'est-à-dire que ces gens-là, ils demandent de l'aide. Vous leur apportez quoi ? Vous leur apportez un trou encore plus grand. D'accord. Mais c'est pas logique. Vous êtes complètement déconnecté.
Aujourd'hui, les Comores et Mayotte, en réalité,
vous savez très bien que le cas de Mayotte n'est pas le cas de la métropole. C'est particulier.
Partagent énormément. Et moi, je le dis, les Maorais et les Maoraises ne veulent pas laisser crever.
En fait, vous faites très exactement ce que font les Parisiens, Parisiens du petit milieu du 16e, c'est-à-dire que vous avez...
J'habite à Barbès dans un logement couche de 10 mètres carrés.
C'est exactement le même raisonnement. Vous avez un schéma et vous l'appliquez à quelque chose qui ne colle pas du tout.
Alors, c'est pas un schéma, c'est quoi alors ?
C'est des discussions avec des premiers et des premiers concernés, c'est-à-dire des habitants de Mayotte. J'entends, on n'a pas la même réponse, on n'a pas la même manière d'analyser.
Bien sûr.
Voilà, c'est le débat.
Et c'est le plaisir.
Ne rentrons pas dans les attaques ad hominem. Moi, au contraire, moi, je me fais défenseur de l'humanité.
Oui, c'est très bien,
mais
ça reste quand même. Oui, mais ça reste quand même un schéma que vous collez de la métropole jusqu'à une île qui s'appelle Mayotte. Quand bien même ce sera la France.
Justement. Alors, Ibouba, le droit du sol, justement, parlons-en. Parlons et écoutons votre avis.
Très bien, ce problème du droit du sol, je crois que Mayotte, ça fait partie de la France intégrante. Si je comprends bien, il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Faire quelque chose pour.
Comment ?
C'est une solution adaptée. Il n'y a pas deux poids, deux mesures.
Non, c'est pas une question Non, il faut voir la Constitution, mon cher ami.
Donc, il faut adapter à la situation.
Mais
vous
quelle
pouvez
situation ?
Pas.
Il n'y a pas de situation.
Il y a une différence entre équité et égalité.
Ce qui est lamentable dans cette affaire, je crois que c'est les habitants de Mayotte même qui veulent cette situation qu'elle soit comme ça.
Mais non, Rititibo nous dit non.
Non, mais si, c'est exactement ça.
Alors que les gens de Mayotte, ils disent, ils réclament justement. Et disent que c'est une demande à l'État. C'est pour ça que je comprends. C'est une demande. C'est une demande locale.
Il n'y a pas de discours uniforme.
C'est une demande locale. Et c'est ce que je ne comprends pas. En fait,
c'est parce que c'est de la manipulation.
Mais quelle manipulation ?
C'est pas de manipulation.
Les populations n'ont pas accès à l'école, ils n'ont pas accès aux hôpitaux.
Mais pourquoi ?
On investit dans le... Mais il faut arrêter de dire que c'est la faute des étrangers. Mais c'est reprendre le discours de...
Alors, vous rajoutez de l'argent public. Ça, c'est bien la gauche.
Mais parce que les gens qui habitent ne veulent pas voir ces étrangers-là venir chez eux. C'est ça la réalité.
Mais ce sont deux peuples qui sont
intimidés. Je rappelle la population locale, et merci Ali Bouba de le rappeler, plus de 50% ne sont pas de Mayotte. Hein.
Oui, voilà, les 50%. C'est ça. Bah, c'est
mais
ça. Mais ils appartiennent. Pour
ça,
moi,
faut le savoir.
Oui, mais Mayotte leur appartient autant qu'aux Français, par exemple, de métropole qui se sont installés là-bas. Ils appartiennent autant aux habitants des Comores. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une vision où je vois le monde, non pas à travers les frontières des États-nations, mais à travers des réalités locales et culturelles. Les Maoris, par exemple.
Des populations
les Maoris,
pauvres,
les Comoriens
quand
partagent
vous entassez
plus.
Les des populations pauvres, vous ne pourrez jamais résoudre le problème.
Je parle de les accueillir en métropole.
Il faut que la solution, elle vienne à la fois de l'État français, aussi des Comores, et qu'il y ait une politique qui soit adaptée à Mayotte. Il ne faut pas vouloir absolument prendre un prisme de hexagonal pour absolument que ça colle avec Mayotte. Si ça rentre pas, ça rentre pas. D'où la résolution de supprimer le droit du sol.
Non,
qui peut se comprendre.
Sur les
on a le droit de pas être d'accord, mais
c'est
ça peut aussi se comprendre.
Rappelez-nous les fondamentaux.
Les fondamentaux, c'est qu'en France, on a une constitution dans laquelle, notamment, il y a la déclaration des droits de l'homme.
Oui.
C'est un truc fondamental et on revient pas là-dessus. On revient pas sur un principe qui a été acquis.
La constitution marche dessus quand c'est l'Europe, parce que quand c'est des normes européennes qui s'appliquent.
Mais on passe du coq à l'âne.
Oui, mais c'est la constitution.
À savoir, notamment, le droit du sol qui est un principe fondamental. La France n'est pas une nation raciste et racialiste. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ces principes fondamentaux ont été
établis. Les pays où il n'y a pas le droit du sol, c'est des pays racistes. La Chine est un pays raciste.
C'est pas, en tout cas, en France, on
la Chine est un pays raciste. L'Algérie est un pays raciste.
En France, on n'a pas cette histoire-là.
L'Algérie est un pays raciste.
En France, on n'a pas cette histoire-là.
Il y a combien de pays où il y a le droit du sol?
C'est vrai, il n'a pas tort de le dire.
Il y a
beaucoup de pays où il n'y a
pas le droit du sol.
Pas le droit du sol, racisme.
Mais ça veut dire quoi, en fait? En tout cas, en France, on n'a pas une vision qui soit racialiste.
Ce qui veut vous dire
de l'identité,
c'est que la France a une histoire.
C'est
oui,
ça.
L'intégration,
voilà,
bien sûr.
Elle a une histoire.
Donné,
c'est pas la Chine, c'est pas,
donné,
le,
voilà,
c'est pas l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Voilà.
Et c'est pas non plus la Corée.
Donc
elle est embarquée avec une histoire avec elle.
Et qu'il faut respecter.
Mais à un moment donné, on arrive au bout des contradictions et il faut les dépasser. Et le moyen de les dépasser, c'est pas plus d'immigration à Mayotte.
Mais écoutez, Macron, il faut dépasser les contradictions.
Mais non, il faut dépasser. Mais non, ça s'appelle de la logique.
Il faut dépasser ces clivages, mais exactement. Il faudra juste savoir que tout est restauré. On ne peut pas parler aujourd'hui, donc.
Dans le micro.
On ne peut pas parler effectivement de cette situation sans pour autant voir le Conseil constitutionnel, ce qu'ils en disent. Il faut un référendum, ou soit trouver donc peut-être sûrement une autre solution. Mais je crois que cette affaire-là, ça fait effectivement donc le béni oui donc de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui.
L'extrême
donc,
droite, ouais.
Voilà. Oui, bah oui. Donc je crois que c'est surtout ça le fond du problème. C'est malheureux que ça soit comme ça.
Et ça rebondit sur la loi immigration.
Je crois qu'il est temps pour tout cela de réfléchir et de mettre un tout petit peu le pied sur l'embrayage pour ne pas trop penser à la répression.
Ouais. On va passer au sujet suivant.
Un éclairage juridique pour répondre à Marwan, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Tu parles d'un référendum. Or, il ne peut pas avoir un référendum local, c'est-à-dire localisé à Mayotte, qui acte la fin du droit du sol.
La Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas eu des référendums sur la souveraineté.
Juridiquement, oui.
Donc, juridiquement,
sur la souveraineté,
il
n'a
pas
tort. Mais pas sur le droit du sol, c'est pas possible.
Mais à un moment donné, oui, mais à un moment donné,
c'est un référendum national.
Soit on demande aux populations comment elles veulent gérer, soit on leur demande pas et on fait totalement autre chose.
On va passer au sujet qui a clore cette émission, c'est le harcèlement scolaire. Oui, alors le harcèlement scolaire, à peine nommé, hein, Madame Belloubet, Nicole Belloubet, eh bien, elle a un chantier qui l'attend, c'est celui du harcèlement scolaire. Un élève par classe est victime de harcèlement scolaire. Un ou deux parfois. Ça dépend évidemment par département et par région. Très honnêtement, alors elle dit, il faut qu'on aille un peu plus loin, promet la nouvelle ministre, mais comment et sous quelle forme, Richie Chibot? Parce que effectivement, aujourd'hui, cette histoire d'harcèlement scolaire, c'est des jeunes qui sont quand même jugés à risque. Hein.
Évidemment, alors, Adi, c'est vrai que ça paraît un peu fâcheux parce que moi, je ne veux pas critiquer pour critiquer ce qui a été annoncé, mais malgré tout, je veux dire, ça fait des décennies maintenant qu'on nous vend un coup des numéros verts,
ensuite des
baromètres,
des ministres,
effectivement, mais en réalité, le problème du harcèlement à l'école, il est documenté, il est largement documenté, il y a des chiffres qui existent, donc cette idée de baromètre, pour moi, c'est surtout une manière d'agiter une annonce qui n'en est pas une, face au non-traitement, au non-solutionnement, si je puis me permettre le néologisme, du ministre de l'éducation sur cette problématique majeure qui est celle du harcèlement et qui touche de plus en plus de jeunes. Moi, je pense, j'ai pas une solution miracle, mais que si déjà on mettait davantage de moyens dans l'école et notamment dans le personnel périscolaire, c'est-à-dire tous les accompagnants, et qu'on avait plus d'adultes qui sont là dans les cours de récréation, en classe pour assister les enseignants, ça permettrait au moins en partie,
c'est ce que vous entendez par
d'une
adulte,
part,
adulte,
de résorber.
C'est pas leur rôle d'être dans les classes, les adultes.
Si, moi
mais
je
pour
pense.
Pour faire quoi?
Mais moi, je pense qu'il faut notamment qu'il y ait des assistants d'éducation plus nombreux qui puissent aller écouter, qui
c'est
puissent
l'autorité l'information pour le prof, il en prend un coup quand même là. Ça veut dire qu'en gros, vous le mettez sous tutelle.
Je dis pas qu'il y a que les classes.
C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire l'enseignant, il est sous tutelle d'un adulte qui va venir l'assister.
Non, dis, c'est pas ce que je dis.
Mais vous voulez.
Non, il y a une confusion. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que l'espace de la classe. Et généralement, le harcèlement, il surgit notamment dans les cours de récréation. Eh bien, il faut qu'il y ait un personnel qui soit davantage formé, effectivement, et qui soit plus nombreux, et qui puisse permettre d'accueillir et de discuter, d'écouter la parole des élèves, parce que la meilleure solution, c'est la prévention. Et donc, si on permet à la racine des problèmes,
c'est beaucoup
du personnel pour écouter les élèves.
C'est beaucoup de nouveautés.
Je pense que là, vous ne réglez pas la question.
C'est qu'il y a beaucoup de. Bon, si j'avais la solution.
Même si on met les moyens, je ne suis pas sûr que ça règle.
Mais il faudrait quand même travailler aussi sur le niveau des professeurs et essayer d'arrêter au lieu d'abaisser à chaque fois. Mais si, faut arrêter de baisser le cursus à chaque fois pour avoir un peu beaucoup plus d'effectifs au niveau des professeurs. Il faut essayer d'élever, de mettre les moyens, de mieux les payer,
de les prendre
en considération. Mais... Et je termine. Vous avez le droit de parler depuis tout à l'heure. Je termine. Et aussi revenir à des bases très simples qui sont un vrai enseignement avec un vrai programme et une autorité beaucoup plus affirmée.
Ça ressemble au fléau, déjà
on aura des élèves qui travailleront avec, qui auront un meilleur niveau, et on aura des élèves qui seront plus concentrés à travailler.
J'ai des témoignages des auditeurs qui s'étaient alarmés.
Ça fait partie du sujet.
Ce problème là c'est un problème.
C'est plus compliqué que ça,
faire de la psychologie, ça sert à rien.
C'est plus compliqué que ça, mais aujourd'hui je crois qu'il faudra essayer. De toutes les façons, tout a été mis là pour pouvoir pallier à ce problème là parce que ce problème il date pas d'aujourd'hui.
Non, il l'a dit, Richie.
Voilà. Il y a l'encadrement des réseaux sociaux aussi qui est un sujet majeur.
Voilà, on y arrive. Alors, je l'attendais,
pour moi. C'est un sujet
majeur.
Voilà
un sujet sur lequel il faut s'attaquer.
Quand on regarde la plateforme TikTok, Snapchat,
c'est
etc.,
ça,
qui sont des messageries
c'est
privées,
là où le bas blesse.
Où effectivement, c'est un véritable enjeu parce que c'est là
filmé
que se
en direct. Et l'humilier ses camarades de classe.
Alors,
c'est là.
Par contre, là où j'ai mis moi des réserves concernant aux solutions qui sont mises en lumière par le pouvoir politique, c'est qu'il ne faudrait pas faire en sorte que la Macronie se serve de cette gestion des réseaux sociaux pour développer des logiques coercitives et
censurer. Allez, c'est parti, 19h50, le Quoi de Neuf. C'est Louis Bachou, la parole de Louis Bachou, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
La dette m'effraie. Seul le ministre des Finances en parle. Et nous continuons à dépenser de plus en plus. Pourquoi ? C'est la question que je pose. À la fin du deuxième trimestre 2023, la dette publique s'établit à 3 000 milliards de plus que nous attendions, soit 112% du PIB. Le PIB crée la richesse obtenue par le travail de tous en un. Rien de positif à attendre en 2024. Bercy annonce que l'État s'endettera de 285 milliards d'euros supplémentaires en 2024. Encore davantage que les 270 milliards d'euros levés en 2023. La dette de chacun est désormais 45 000 euros par contribuable. Rien n'y fait. La Cour des comptes a beau inciter l'État à réduire la dépense publique, il fait la sourde oreille et continue à creuser le déficit. Pour mémoire, cette ardoise était encore limitée à 1 000 milliards d'euros en 2023. C'est une faillite nationale. La charge des intérêts atteindra près de 53 milliards d'euros en 2024, indique l'AFT. Selon la Cour des comptes, les intérêts de la dette approcheront de 84 milliards en 2027. En plus, les entreprises et les ménages se sont endettés, elles aussi en forte hausse depuis la dernière décennie. Nettement, elle est proche de 4 milliards d'euros fin 2022. Comment expliquer cette progression de la dette globale au sein du pays ? Dans quelle mesure est-elle alarmante ? Aux États-Unis, le ratio d'endettement atteint 118% et au Japon, il culmine à 237%. Mais au Japon, 90% de la dette publique est détenue par des opérateurs nationaux, alors qu'en France, elle n'est que de 50%. Et les États-Unis disposent du pouvoir du dollar pour soutenir leur économie. La détention par des acteurs étrangers constitue donc une contrainte forte pour la France. En résumé, nous dépensons plus que nous créons. Et en plus, nos services publics sont délabrés. Hôpital, police, justice, éducation nationale, défense. Et pourquoi ? Si la France peut s'honorer de distribuer de nombreuses aides sociales, Elles sont sans contrôle. La fraude sociale et fiscale est une partie de la cause de la dette française. Les dépenses sociales, en hausse, sont liées au manque d'incitation au travail. Par exemple, plus de 60% des bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Nous sommes donc un pays qui travaille peu. Une vraie réflexion sur la valeur du travail doit être menée. En effet, pour rembourser la dette et moins emprunter, il faut créer beaucoup plus de richesses. Le retour à l'importance du travail est obligé pour assurer notre modèle social. Ou alors, nous risquerions la faillite demain ou après-demain.
Eh oui, effectivement, merci à Louis Bachou. Avec le Quoi de Neuf, la parole de Louis Bachou. Merci messieurs, c'est déjà la fin de cette émission, vous savez. Ça va très très
c'est
vite.
Trop,
merci
c'est
à Richie Thibault.
C'est un moment précieux et vital de
mais c'est bien, c'est bien, c'est dense. C'est dense, c'est voilà, il y a du niveau. Merwan Mioubi, bonsoir.
Bonsoir, et je veux un référendum pour allonger l'émission de Farkan, les informer. Messieurs, dames, les auditeurs, là, votez, votez, votez pour qu'on rallonge l'émission d'Adil Farkan, les informer.
Ça va, non? Il était dans deux médias en même temps. Il était dans le micro, il était dans son média en ligne.
C'est la fête de la radio.
Vous voyez que je suis carrément,
il est toujours concentré. Toujours là.
Bilal, il est où Bilal? Il est dans les couloirs, non Bilal, hein, il dort. Merci à Solal, à Nabil, à toute l'équipe. Merci à vous, à la réalisation.
Les hein.
Absolument. Merci aux nombreux auditeurs. Je tiens à vous le dire. Merci à vous.
Et on ne lâche rien.
Vous êtes très nombreux, absolument. Vous êtes très très nombreux à nous appeler chaque soir au 01 53 48 3000, ça fait plaisir.
Et des gens qui Bilal ont des Medman, valeurs, on les entend.
Bilal Medman, 20h, Vanessa, 21h, Kim, demain matin, et quant à moi, demain, avec autant de plaisir, mais surtout,
on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.